pour qu'il lui garantisse son soutien au Parlement, sans quoi il devient impossible de gouverner. Or, c'est l'eurodéputé suédois Thomas Tobé, membre des Modérés, le parti du Premier ministre Ulf Kristersson.
Radio G. Radio-G.fr. Un point, c'est tout.
Impromptu. Aujourd'hui, dans l'intimité de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu.
Commencé en 1909, il y a donc tout juste 100 ans, l'immense roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, ouvre sur près de 2000 pages un univers de figures humaines, de sensations, d'observations lucides et profondes. C'est bien un roman dont il s'agit, car le « je » qui parle dans le livre ne renvoie pas exactement à Proust, qui lui-même déclare « Il y a un monsieur qui raconte et dit je ». Ce monsieur qui raconte le fil de sa vie, nous l'appellerons le narrateur. De la vie de Marcel Proust au roman, des changements importants ont été apportés sur les lieux, les personnes, les temps. La si célèbre Madeleine trempée dans du thé n'était dans la réalité qu'une biscotte trempée dans une infusion. Cependant, on sent que ce livre est nourri des expériences les plus intimes que Proust restitue de la manière la plus précise qui soit. Nous vous convions donc aujourd'hui à entrer avec nous dans l'univers de « À la recherche du temps perdu » en commençant par le premier livre du premier tome, « Combray », dans « Du côté de chez Swann », où se tissent les premiers fils des grands thèmes et des recherches du narrateur. Le livre s'ouvre sur cet entre-deux, cette zone de brume et d'indétermination où le narrateur s'endort et se réveille sans plus savoir où il est.
Mais il suffisait que dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendît entièrement mon esprit. Alors, celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormi, et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais pas au premier instant qui j'étais. J'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence, comme il peut frémir au fond d'un animal. J'étais plus dénué que l'homme des cavernes. Mais alors, le souvenir, non encore du lieu où j'étais, mais de quelques-uns de ceux que j'avais habités et où j'aurais pu être, venait à moi comme un secours d'en haut, pour me tirer du néant d'où je n'aurais pu sortir tout seul. Je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation, et l'image, confusément entrevue, de lampes à pétrole, puis de chemises à col rabattu, recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Peut-être l'immobilité des choses autour de nous leur est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d'autres, par l'immobilité de notre pensée en face d'elles. Toujours est-il que quand je me réveillais ainsi, mon esprit s'agitant pour chercher, sans y réussir, à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait, d'après la forme de sa fatigue, à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait. Sa mémoire, la mémoire de ses côtés, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi. Tandis qu'autour de lui, les murs invisibles, changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres. Et avant même que ma pensée, qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappelait pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir, avec la pensée que j'avais en m'y endormant et que je retrouvais au réveil.
Lors de ces réveils nocturnes, la mémoire intellectuelle du narrateur retrace le souvenir des chambres qu'il a connues et certains souvenirs majeur de l'enfance. Voici celui où le narrateur, si attaché à sa mère, sait qu'il va en être séparé par l'invité du soir, Charles Swann.
Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais, quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner. Et que pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas. Bon, on va reprendre.
Je recommence.
Parce que je bute.
Vas-y. Je recommence. Tu dis je recommence.
Donc, je recommence. Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner. Et que, pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si ça avait été dans ma chambre. Aussi, je me promettais, dans la salle à manger, pendant qu'on commencerait à dîner, et que je sentirais approcher l'heure, de faire d'avance ce baiser qui serait si court et furtif, et tout ce que j'en pouvais faire seul, de choisir avec mon regard la place de la joue que j'embrasserais, de préparer ma pensée pour pouvoir, grâce à ce commencement mental de baiser, consacrer toute la minute que m'accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres, comme un peintre qui ne peut obtenir que de courtes séances de pause, prépare sa palette et a fait d'avance de souvenirs, d'après ses notes, tout ce pourquoi il pouvait à la rigueur se passer de la présence du modèle. Mais voici qu'avant que le dîner fût sonné, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher. On dîne tard, du reste, ce soir. » Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi des traités, dit « Oui, allons, va te coucher. » Je voulus embrasser maman. À cet instant, on entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons, laisse ta mère. Vous vous êtes dit bonsoir assez comme cela. » Ces manifestations sont ridicules. Allez, monte !» Et il me fallut partir sans viatique. Il me fallut monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à contre-cœur. Montant contre mon cœur qui voulait retourner près de ma mère parce qu'elle ne lui avait pas, en m'embrassant, donné licence de me suivre. Cet escalier détesté où je m'engageais toujours si tristement exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir et la rendait peut-être plus cruelle encore pour ma sensibilité parce que sous cette forme olfactive, mon intelligence n'en pouvait plus prendre sa part. quand nous nous endormons et qu'une rage de dents n'est encore perçue par nous que comme une jeune fille que nous nous efforçons 200 fois de suite de tirer de l'eau et ou que, comme un vers de Molière que nous nous répétons sans arrêter, c'est un grand soulagement de nous réveiller et que notre intelligence puisse débarrasser l'idée de rage, de dents, de tout déguisement héroïque ou cadencé. C'est l'inverse de ce soulagement que j'éprouvais quand mon chagrin de monter dans ma chambre entrait en moi d'une façon infiniment plus rapide, presque instantanée, à la fois insidieuse et brusque, par l'inhalation, beaucoup plus toxique que la pénétration morale, de l'odeur de vernis particulière à cet escalier. Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau en défaisant mes couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m'ensevelir dans le lit de fer qu'on avait ajouté dans la chambre parce que j'avais trop chaud l'été sous les courtines de reps du grand lit, j'eus un mouvement de révolte. Je voulus essayer d'une ruse de condamné. J'écrivis à ma mère en la suppliant de monter pour une chose grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre. Mon effroi était que Françoise, la cuisinière de ma tante qui était chargée de s'occuper de moi quand j'étais à Combray, refusa de porter mon mot. Je me doutais que pour elle faire une commission à ma mère quand il y avait du monde lui paraîtrait aussi impossible que pour le portier d'un théâtre de remettre une lettre à un acteur pendant qu'il est en scène.
Transgressant toutes les règles familiales, l'enfant décide donc d'attendre sa mère au pied du lit et de l'embrasser, quoi qu'il puisse lui en coûter.
Et ma mère ouvrit la porte treillagée du vestibule qui donnait sur l'escalier. Bientôt, je l'entendis qui montait fermer sa fenêtre. J'allais sans bruit dans le couloir. Mon cœur battait si fort que j'avais de la peine à avancer. Mais du moins, il ne battait pas d'anxiété, mais d'épouvante et de joie. Je vis dans la cage de l'escalier la lumière projetée par la bougie de maman. Puis je la vis elle-même. Je m'élançais. À la première seconde, elle me regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé. Puis sa figure prit une expression de colère. Elle ne disait même pas un mot. Et en effet, pour bien moins que cela, on ne m'adressait plus la parole pendant plusieurs jours. Si maman m'avait dit un mot, ça aurait été admettre qu'on pouvait me reparler. Et d'ailleurs, cela peut-être m'eût paru plus terrible encore comme un signe que devant la gravité du châtiment qui allait se préparer, le silence, la brouille eussent été puérils. Une parole c'eût été le calme avec lequel on répond à un domestique quand on vient de décider de le renvoyer. Le baiser qu'on donne à un fils qu'on envoie s'engager alors qu'on le lui aurait refusé si on devait se contenter d'être fâché 2 jours avec lui. Mais elle entendit mon père qui montait du cabinet de toilette où il était allé se déshabiller. Et pour éviter la scène qu'il me ferait, elle me dit d'une voix entrecoupée par la colère « Sauve-toi, sauve-toi qu'au moins ton père ne t'ait pas vu ainsi attendant comme un fou. » Mais je lui répétais « Viens me dire bonsoir. » Terrifié en voyant que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur, mais aussi usant de son approche comme d'un moyen de chantage et espérant que maman, pour éviter que mon père me trouvât encore là si elle continuait à refuser, allait me dire « Rentre dans ta chambre, je vais venir. » Il était trop tard. Mon père était devant nous. Sans le vouloir, je murmurais ces mots que personne n'entendit. « Je suis perdu. » Il n'en fut pas ainsi. Mon père me refusait constamment des permissions qui m'avaient été consenties dans les pactes plus larges octroyés par ma mère et ma grand-mère parce qu'il ne se souciait pas des principes et qu'il n'y avait pas avec lui de droit des gens. pour une raison toute contingente ou même sans raison, il me supprimait au dernier moment telle promenade si habituelle, si consacrée, qu'on ne pouvait m'en priver sans parjure. Ou bien, comme il avait encore fait ce soir, longtemps avant l'heure rituelle, il me disait « Allons, monte te coucher, pas d'explication ». Mais aussi parce qu'il n'avait pas de principe, dans le sens de ma grand-mère, il n'avait pas à proprement parler d'intransigeance. Il me regarda un instant d'un air étonné et fâché, puis, dès que maman lui eut expliqué en quelques mots embarrassés ce qui était arrivé, il lui dit « Mais va donc avec lui, puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir. Reste un peu dans sa chambre, moi je n'ai besoin de rien. » « Mais mon ami, répondit timidement ma mère, que j'ai envie ou non de dormir ne change rien à la chose. On ne peut pas habituer cet enfant. » « Mais il ne s'agit pas d'habituer, dit mon père en haussant les épaules. Tu vois bien que ce petit a du chagrin, il a l'air désolé cet enfant, voyons. Nous ne sommes pas des bourreaux. Quand tu l'auras rendu malade, tu seras bien avancé. » Puisqu'il y a deux lits dans sa chambre, dis donc à Françoise de te préparer le grand lit et couche pour cette nuit auprès de lui. Allons, bonsoir. Moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. » On ne pouvait pas remercier mon père. On lui agaçait par ce qu'il appelait des sensibleries. Je restais sans oser faire un mouvement. Il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche, sous le cachemire de lin de violet et rose qu'il nouait autour de sa tête depuis qu'il avait des névralgies, avec le geste d'Abraham dans la gravure d'après Benozzo Gozzoli que m'avait donné M. Swann, disant à Sarah qu'elle avait à se départir du côté d'Isaac. Il y a bien des années de cela. La muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n'existe plus depuis longtemps. En moi aussi, bien des choses ont été détruites que je croyais devoir durer toujours, et de nouvelles se sont édifiées donnant naissance à des peines et à des joies nouvelles que je n'aurais pu prévoir alors, de même que les anciennes me sont devenues difficiles à comprendre. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va avec le petit ». La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais depuis quelque temps, je recommence à très bien percevoir si je prête l'oreille. Les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seul avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé. Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau, comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour qu'on les croirait arrêtés, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir.
Alors, dans un sentiment de culpabilité, le jeune garçon goûte la présence de sa mère qui décide de lui lire l'histoire incestueuse de François Le Champy, le roman de George Sand. C'est pour lui un moment de délice, car la mère
est une lectrice admirable par le respect et la simplicité de l'interprétation, par la beauté et la douceur du son.
Possessivité, angoisse de la séparation, jalousie, culpabilité. À partir du lien à la mère se dessine la nature de la relation amoureuse que l'on peut voir courir dans tout le roman. Ce lien exclusif sera repris et en quelque sorte réfracté dans les liaisons amoureuses des autres personnages et tout particulièrement dans l'amour que Swann portera à Odette.
Thank you.
Cependant, dans ses remémorations, le narrateur ne parvient pas à faire revivre le passé dans toute son épaisseur, au point qu'il s'interroge. Le passé, mort à jamais, c'était possible. Une expérience exceptionnelle viendra par hasard remédier à cette impossibilité, et c'est là que prend place cette expérience décisive de la Madeleine.
Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord, et je ne sais pourquoi me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés « Petite Madeleine », qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. De la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi. Elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu venir cette puissante joie?
Alors commence un long travail de recherche et d'élucidation pour retrouver l'origine de l'émotion, du ravissement.
Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? Grave incertitude toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même. Quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement, créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans la lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu qui n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de sa réalité, devant laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je retrouve le même état sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit. Et pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère. J'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême. Puis une deuxième fois, je fais le vide devant lui. Je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée. Et je sens tressaillir quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, Ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément. À peine si je perçois le reflet neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées. Mais je ne peux distinguer la forme. Lui demander, comme au seul interprète possible, de me traduire le témoignage de sa contemporaine, de son inséparable compagne, la saveur. Lui demander de m'apprendre de quelles circonstances particulières, de quelle époque du passé il s'agit.
Et, comme une grâce, le souvenir surgit qui était profondément ancré dans la mémoire du corps par les sensations vécues autrefois.
Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis sans en manger sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres, plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout s'était désagrégé. Les formes et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer. Sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire les courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et leur petit logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Thank you. L'émission d'aujourd'hui a été préparée et lue par
Dominique
et Christine.
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr. Que je veux bien croire.
ma barbe compassionniste, plantée aux frontières de la vie. Le cirque interrompt son exil derrière ses mystérieux abords, le cirque de la main d'or. Des farandoles de lampions animent au cœur toutes les passions. Tombent les paillettes d'artistes, des fous volants équilibristes lâchent leurs fiches dans le décor. Chacun a sa part du trésor.